franceinter.fr.
Marcel !
Longtemps, je me suis couchée de bonne heure.
Je cessais au moment où j'avais reconnu inconsciemment le goût de la petite Madeleine.
Un été avec Proust. Une émission de Laura El Maki.
Longtemps, je me suis couchée de bonne heure. C'est la première phrase de La recherche du temps perdu. Première phrase dont le premier mot, ou plutôt la première syllabe, résume à elle seule l'idée que se font la plupart des gens de ce livre. Alors oui, je ne vous apprends rien, La recherche est un roman long, près de 3000 pages. Mais cette longueur était probablement nécessaire à Marcel Proust pour venir à bout de sa démarche, c'est-à-dire montrer comment le temps passe sur nos vies, comment il nous transforme et de quelle manière nous pouvons malgré tout le retenir. C'est donc de longueur dont il sera question ce soir. Longueur du temps, mais aussi longueur de la phrase proustienne, qui, à l'heure des tweets et autres messages à caractère limité, semble, il est vrai, un peu monstrueuse. Alors qu'est-ce que cette longueur nous révèle de la conception du temps par Proust ? Antoine Compagnon, qui nous a parlé hier de sa lecture du roman, est à mes côtés ce soir pour y répondre.
Qu'est-ce que vous pensez de l'œuvre de Proust?
Il y a des œuvres courtes qui paraissent longues. La longue œuvre de Proust me paraît courte. On voudrait lire et relire encore après la dernière ligne du temps retrouvé. Toute sa vie secrète est là, masquée de velours noir. On dirait que la solitude le poussait à se livrer et à se cacher tout à la fois.
Bonsoir Antoine Compagnon.
Bonsoir.
L'ami de Marcel Proust, Jean Cocteau, évoquait dans cette archive la longueur courte, pour résumer, de la recherche. Comprenez-vous ce qu'il veut vraiment dire par là ?
Je crois d'abord que, comme beaucoup de lecteurs de Proust, Cocteau est de ceux qui, une fois arrivé à la fin, recommencent au début. Parce que, comme il l'a dit, ça ne suffit pas. Et le seul moyen, c'est de recommencer. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que Proust n'avait pas prévu de faire un livre si long. Lorsque il commence à prendre contact avec des éditeurs en 1909 et puis en 1912, il prévoit deux volumes, Le temps perdu et Le temps retrouvé, et ces deux volumes, ils feraient 300 pages, puis chacun, puis 500 pages chacun, et puis quand il rend le manuscrit du côté de chez Swann, on en est en gros à 700 pages chacun, il voudrait à ce moment-là... On est à 1500 pages, et puis il y a la guerre qui interrompt la publication, et lorsque le second tome, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, est publié et imprimé en 1918, eh bien, le livre a pris les proportions qu'on lui connaît, mais c'est à cause de la guerre. Proust n'est pas le seul responsable. Il a eu du temps pour amplifier ce roman.
Il s'est fait lui-même surprendre par son propre livre.
Écoutez, il a une écriture qui a toujours été celle de l'amplification, et il écrit à partir de fragments, puis il monte ces fragments dans des scénarios, ces fragments qui ont souvent été développés de manière un peu autonome, sans qu'il sache exactement où il les mettrait, et puis à chaque étape, Roland Barthes disait qu'il surnourrissait son œuvre, et encore sur les épreuves, pour la partie qui a été publiée de son vivant, sur les épreuves, preuve, il y a encore de non-développements qui sont ajoutés. Donc s'il avait vécu plus longtemps, le livre ne ferait pas 3000 pages, mais 4000, c'est assez certain. La prisonnière, Albertine disparue, et Le temps retrouvé aurait encore été amplifié, développé. Oui, c'est un livre, c'est un petit peu le livre d'une vie, puisque Proust, au fond, a commencé à l'écrire lorsqu'il avait 20 ans. Jean Santeuil, la première version, c'est déjà La recherche du temps perdu. Proust ne pouvait écrire qu'un seul livre. On se demande parfois, qu'aurait-il fait s'il avait survécu à la publication du temps retrouvé ? Qu'aurait fait Proust ? C'est assez inconcevable qu'il ait survécu à la fin.
Venons-en, s'il vous plaît, à la phrase très particulière de Proust, qui ressemble d'ailleurs un peu à celle de Montaigne, hein, qui avance à saut et à gambade. On ne sait jamais quand est-ce qu'elle va se clore, se terminer, et si même elle va se terminer tout court. Comment peut-on ou doit-on comprendre cette longueur de la phrase? De quoi est-elle le signe?
C'est une longue phrase, mais ce n'est pas la phrase périodique. Hein, ce n'est pas la phrase du grand discours d'apparat, ce n'est pas la phrase cicéronienne, et celle qu'on a appris au collège des jésuites et puis au lycée du 19e siècle. C'est une phrase à rallonge, avec beaucoup d'incidentes, beaucoup de parenthèses, et donc vous avez raison de la rapprocher de la phrase de Montaigne qui est prolongée par des participes présents, beaucoup plus que par de longues subordonnées, même s'il y a des subordonnées aussi. Bon, on a tendance à l'associer à la phrase familière de la lettre, ou des mémoires de l'âge classique. Et on s'est commencé, Proust était un amateur de Madame de Sévigné et de Saint-Simon. Et ce sont les lettres de Madame de Sévigné, les mémoires de Saint-Simon qui sont, mais, et beaucoup d'autres mémoires publiées au XIXe siècle, qui sont un peu le modèle de cette longue phrase à rallonge.
Paradoxalement, alors là on parle de la longueur des phrases de Proust, mais la phrase que j'ai citée en introduction, « Longtemps, je me suis couché de bonheur », elle est quand même étonnamment courte.
Il y a beaucoup de phrases courtes, hein. Il y a beaucoup de phrases courtes dans La recherche du temps perdu, et n'oublions pas qu'elles appartiennent aussi à la tradition classique, qui est celle de l'épigramme, de la sentence, de la maxime. Il y a beaucoup de maximes sur beaucoup de sujets dans Proust qui ont d'ailleurs été recueillis, comme chez Montaigne, où on avait trouvé des maximes de sagesse. Alors cette première phrase, « Longtemps, je me suis couché de bonheur », c'est une phrase géniale. C'est une phrase géniale pour commencer ce livre, mais Proust a eu beaucoup de mal à la trouver. Elle n'est apparue qu'au tout dernier moment, après beaucoup de recherches et beaucoup de repentir, puisque sur les épreuves, Proust l'a encore barré, cette phrase, en essayant un autre début pour finalement la réintroduire. Alors, je me demande pourquoi il l'a barrée puis réintroduite jusqu'à l'étape des épreuves. Elle était apparue dans les marges de la dactylographie. Alors, on peut dire deux choses. Soit parce qu'il n'en était pas tout à fait content. Après tout, c'est possible. Peut-être que cette phrase, il l'a acceptée, mais il n'était pas absolument convaincu. Et puis, on peut faire une autre hypothèse. Cette phrase est tellement géniale qu'il a eu du mal, justement, à admettre qu'elle était aussi géniale. Et il a eu beaucoup de difficultés. Et je crois que les écrivains peuvent vivre de tels moments, ne pas se rendre compte qu'ils avaient eu vraiment un coup de génie en inventant cette phrase. Je crois que c'est une phrase remarquable pour introduire, évidemment, ce livre sur le temps, ce livre sur la mémoire, ce livre sur l'insomnie, et qui nous propose ce contraste avec un temps où il dormait bien. Les traducteurs de cette première phrase ont beaucoup de difficultés.
Ah oui ?
Ah oui, elle est très difficile à traduire dans toutes les langues, de donner ce sens justement du temps dans ce longtemps.
Alors ce longtemps, cet adverbe, parlons-en un petit peu, il est inaugural, est-ce qu'il est programmatique ? Qu'est-ce qu'il dit de ce qui va suivre, de ce qu'on va lire après ?
La première phrase, il faut pas vraiment la séparer du début, du premier paragraphe, de l'entrée en matière, puisque c'est un héros qui ne dort plus, justement, qui est insomniaque et qui se rappelle de l'époque où il dormait et où il se réveillait en pleine nuit et où, à ce moment-là, il se souvenait de son enfance. Il y a une sorte de double détente dans cette première page. Donc, ce héros insomniaque se souvient d'un temps intermédiaire où il dormait encore et se souvenait de son enfance. Et puis, c'est comme ça qu'on entre dans ce récit des chambres. Il se souvient de toutes les chambres différentes de son enfance, à Paris, à la campagne, à Combray, à Balbec, au bord de la mer, en villégiature. Et c'est ça qui introduit cette sorte de kaléidoscope de la mémoire dans lequel le lecteur est embarqué, même s'il ne le comprend pas tout de suite, puisque, je le disais, il est perdu pendant un moment avant de saisir la manière dont ce livre se développera.
Un été avec Proust, Antoine Compagnon, Laura El Maki.
Alors ce temps, il est présenté comme long en quelque sorte, avec cet adverbe « longtemps ». Et la longueur du temps, finalement, elle est visible à terme dans ce livre. On la voit apparaître sur les visages des hommes, des personnages de ce livre. Je voudrais qu'on écoute un extrait assez célèbre du temps retrouvé, dans lequel le narrateur invité chez la princesse de Guermantes est témoin du vieillissement de tous ceux qu'il a connus. C'est le bal des têtes qui nous est lu par André Dusselier.
Au premier moment, je ne compris pas pourquoi j'hésitais à reconnaître le maître de maison, les invités, et pourquoi chacun semblait s'être fait une tête, généralement poudrée, et qu'il les changeait complètement. Le prince avait encore, en recevant, cet air bonhomme d'un roi de féerie que je lui avais trouvé la première fois, mais cette fois, semblant s'être soumis lui-même à l'étiquette qu'il avait imposée à ses invités, il s'était affublé d'une barbe blanche, et, traînant à ses pieds qu'elles alourdissaient comme des semelles de plomb, semblait avoir assumé de figurer un des âges de la vie. Ses moustaches étaient blanches aussi, comme s'il restait après elles le gel de la forêt du petit pousset. Elle semblait incommoder la bouche raidie, et l'effet, une fois produit, il aurait dû les enlever. Le plus extraordinaire de tous était mon ennemi personnel, Monsieur d'Argencourt, le véritable clou de la matinée. Non seulement, au lieu de sa barbe à peine poivre et sel, il s'était affublé d'une extraordinaire barbe d'une invraisemblable blancheur, mais encore, c'était un vieux mendiant qui n'inspirait plus aucun respect qu'était devenu cet homme dont la solennité, la raideur empesée, était encore présente à mon souvenir, et qui donnait à son personnage de vieux gâteux une telle vérité que ses membres tremblotait, que les traits détendus de sa figure habituellement hautaine ne cessaient de sourire avec une niaise béatitude. Poussé à ce degré, l'art du déguisement devient quelque chose de plus, une transformation complète de la personnalité. En effet, quelque rien avait beau me certifier que c'était bien Argencourt qui donnait ce spectacle inénarrable et pittoresque, combien d'états successifs d'un visage ne me fallait-il pas traverser si je voulais retrouver celui de l'Argencourt que j'avais connu et qui était tellement différent de lui-même? J'eus un fou rire devant ce sublime gaga, aussi émollié dans sa bénévole caricature de lui-même que l'était, dans la manière tragique, M. de Charlus foudroyé et poli.
Le rire du narrateur face à ce spectacle, il y a quelque chose d'assez pathétique, Antoine Compagnon, dans ce passage.
De pathétique, mais aussi de jubilatoire, puisqu'il semble que le héros, le narrateur, n'ait pas été affecté par le temps de manière aussi brutale que ceux qui l'observent ce jour-là. Alors on est dans le temps retrouvé, dans ce bal de tête qui termine la recherche du temps perdu, et le héros, le narrateur, après un certain nombre d'années d'absence, en raison de sa maladie durant la guerre, revient à Paris et découvre en effet tous ces personnages qui ont été transformés par le temps. Et en même temps, c'est le moment où il a découvert le ressort de la création littéraire, donc il y a un sentiment de sa propre supériorité par rapport à tous ces personnages. C'est lui qui parlera d'eux, qui les sauvera, qui élèvera ce monument aux morts.
Alors ce temps qui fige les hommes et qui les transforme, il a été nécessaire au narrateur et à Proust pour la maturation du projet d'écriture et pour nous faire comprendre aussi à nous lecteurs que ce temps, il faut l'appréhender, il faut le sentir. Finalement, il a pris son temps en quelque sorte pour écrire le temps et c'est peut-être ce qu'il nous apprend à faire.
Écoutez, Proust a écrit très vite. N'oublions pas que cette œuvre...
Lui, le procrastinateur...
Oui, mais une fois qu'il s'y est mis, n'oublions pas qu'il a fait ça assez vite. Hein. Ces 3000 pages dont nous parlons, elles ont été écrites en relativement peu d'années. Hein. Et bon, il s'y est mis en 1909, en 1912, il avait ce gros roman de, à ce moment-là, largement 1500 pages, qui était à peu près... au point. Donc il l'a écrit relativement vite parce qu'il avait trouvé son idée. Le livre est construit sur une idée qu'il a trouvée vers 1908, et qui était cette idée de la mémoire involontaire. Donc, tout le livre vise, juste avant ce bal de tête, justement, juste avant le bal de tête, il y a cette partie qui s'appelle l'adoration perpétuelle et qui est la révélation du ressort de l'art dans la sensation. Et bon, c'est un livre construit sur une idée. Mais ce n'est pas un livre dogmatique, ce n'est pas un roman à thèse, et cette thèse, cette théorie de la mémoire, elle est profondément enfouie, profondément cachée jusqu'au bout.
Merci Antoine Compagnon, nous poursuivrons notre discussion autour de la mémoire involontaire jeudi et vendredi prochain. Il sera question du temps perdu et du temps retrouvé. Mais avant cela, je vous donne rendez-vous demain, évidemment, nous parlerons du temps labyrinthique dans l'œuvre de Proust. Cette émission a été réalisée par Audrey Ripouille avec à la technique Pierre-Yves Derolin. Et un grand merci à Emmanuel Fournier et Valentin Pérez qui l'ont préparé. J'en profite également pour remercier Aude Vassan à l'INA pour ses recherches d'archives ainsi que les éditions Télème qui nous permettent tous les soirs de diffuser des extraits de la recherche.
Was the last day of the year, was coming down in sheets. I was sitting on the street, soaked through from the sleet. I'd had too much to drink. I called you up and drew you in. I thought I knew, but I was wrong. You came to my town, I showed you around, but everywhere we went reminded me.
Djoubaka avait choisi pour nous ce soir une chanson d'Aléla Diane, I Thought I Knew. À 21h, vous retrouverez Eva Bester et c'est le cinéaste cambodgien Ritipan qui sera à ses côtés pour donner ses remèdes à la mélancolie. Mais avant, je vous laisse en compagnie de Vincent Josse. Il nous fait visiter ce soir l'atelier du photographe Jean-Louis Courtina, une émission qui avait été diffusée en janvier dernier et que nous redécouvrons ce soir. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à partir de 20h. Bonne soirée à l'écoute de France Inter.